édition de la Sarine, vous présente
Radio Fribourg, coin de ciel.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio FR, c'est Coin de Ciel, votre émission spirituelle qui commence maintenant. Si je vous dis paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère ou envie, vous allez bien sûr deviner que nous allons parler aujourd'hui des péchés, mais également du pardon et de la confession. C'est l'abbé Dominique Rima qui va nous éclairer sur ce sujet durant cette demi-heure. Responsable de la mission catholique italienne ici à Fribourg, Dominique Rima est également auxiliaire au sein de l'unité pastorale Notre-Dame.
J'ai tout mangé le chocolat.
Dominique Rima, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour commencer, d'où est-ce que vient le mot péché ?
Alors, je ne suis pas un exégète, mais je sais que c'est dans la Bible qu'on trouve cette réalité du péché. Je me souviens des cours que j'avais avec Monseigneur Genoux, et lui nous disait que c'est manquer la cible. C'est comme une flèche qui est ordonnée à une cible. Eh bien, le péché, c'est la flèche qui manque sa cible, justement. Ça sort, ça va à côté. Ça, c'était peut-être au niveau philosophique, mais ça commence dès les premières pages de la Bible. Après la création, il y a ce qu'on appelle le péché originel, qui est un peu un péché original aussi, parce que c'est pas nous qui l'avons commis, mais c'est Adam et Ève qui tenaient la place de toute l'humanité avec la nature humaine. Et on voit que le péché entre avec le mensonge sous l'instigation du diable. Alors, le péché, je dirais que c'est un refus d'aimer et un refus de se recevoir de Dieu qui est notre Père et de vouloir faire tout seul.
On entend souvent parler de péchés capitaux. Quels sont-ils et en quoi se distingue vraiment un péché capital ?
Oui, c'est vrai, quand on est au catéchisme avec les enfants, quand on leur demande les sept vertus, ils savent pas. Mais quand on leur demande les sept péchés capitaux, alors là, ils font la bataille pour savoir, ah oui, il y a celui-là, alors il y a la luxure, l'avarice, l'orgueil, la colère, et encore trois autres. Je sais pas si vous avez vu le film, bon, il faut pas donner à voir ce film aux enfants, déjà même les adolescents, mais c'est Seven. Il y a les sept péchés capitaux aussi, avec la gourmandise, avec à la fin la colère, il y a aussi l'envie. Alors on les appelle capitaux parce qu'ils sont à la tête d'autres péchés en fait. On pourrait presque dire que dans chaque péché, il y a toujours un de ces sept péchés qui est touché. Alors bien sûr qu'on peut prendre ça aussi à partir des 10 commandements, mais les péchés capitaux, ça a été défini aussi par les théologiens, donc ils sont à la tête des autres péchés. Donc chaque fois qu'on pêche, on peut dire, il y a un type de ce péché qui est impliqué. Mais d'abord, ça serait bien de parler d'abord des choses positives, mais bien sûr qu'on est là pour parler du péché. Donc il y a les sept vertus d'abord, avec les quatre vertus cardinales, la force, la tempérance, la justice, et encore un autre que j'ai oublié, et puis la foi, l'espérance et la charité. Et puis après, bien sûr, il y a ces sept péchés capitaux.
Quelle est la différence entre un péché capital et un péché qu'on dit mortel ?
Alors, je dirais que les péchés capitaux, ça toucherait toujours un peu une matière grave, si on veut. Mais pas forcément mortelle. Parce que la vie de la grâce, c'est la vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est la devise de notre évêque. Et c'est vrai que si on touche à cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, on entre alors dans le péché, ce qui nous prive de cet amour. Alors, bien sûr, pas de façon complète ou totale. D'abord, il y a les péchés véniels. On dit que le juste pêche 77 fois par jour. Mais des fois, c'est des petits péchés. C'est un petit peu comme le renard qui mange un peu la vigne. Donc, c'est bien aussi, si on est vraiment amoureux du Seigneur, d'essayer d'éviter ce qu'on appelle les péchés véniels. C'est vrai, c'est sûr. Si vous prenez ça dans l'amitié aussi, par exemple, ou bien dans la relation entre un homme et une femme, dans le sacrement du mariage, on voit qu'il y a des petites blessures, des fois, qui sont données. Bien sûr qu'on pourrait dire que c'est peut-être pas grand-chose, mais quand on aime, ça a quand même son importance. Donc tous les petits péchés véniels qui se glissent dans notre vie, alors sont remis par simplement l'acte de contrition, ce qu'on appelle. Donc d'avoir un cœur contrit et de demander pardon au Seigneur. Et puis c'est l'acte de contrition qu'on fait aussi à la messe. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et là, par notre vie de foi, par notre vie de prière, on peut remettre ses péchés sans nécessairement passer par la confession. Après, il y a les péchés, ce qu'on appelle mortels, parce qu'encore une fois, vivre avec le Christ, c'est vraiment la vie, c'est la joie, et puis le péché rend triste. Alors les péchés mortels, c'est ce qui touche justement vraiment de façon grave, et pour faire un péché mortel, on dit qu'il faut pleine advertance, donc être parfaitement conscient de ce qu'on fait, il faut une matière, ce qu'on appelle grave, et puis connaître aussi ce qu'on a fait, ça veut dire aussi avoir la liberté. Donc un péché mortel, c'est pas forcément tuer sa voisine ou son voisin, mais c'est vraiment ce qui touche à la grâce. Par exemple, moi je pense que un péché mortel, c'est ne peut-être pas aller régulièrement à la messe. Pourquoi ? Parce que on se prive de cette vie qui vient de l'Eucharistie. Alors c'est vrai que le péché mortel, on peut plus le remettre par soi-même. On peut prendre ça en exemple à partir de l'informatique, par exemple. S'il y a un petit bug sur l'informatique, on est en train de taper quelque chose à l'ordinateur, puis il y a un petit problème, on arrive peut-être en téléphonant à un ami, puis lui dire « Écoute, qu'est-ce que je dois faire ?»« Ah ben tu fais comme ça, tac, tac, tac. » Puis on s'en sort, puis on peut continuer à travailler. Alors ça serait véniel, par exemple. Et puis si c'est mortel, eh bien, il faut appeler le technicien. Parce que... c'est fini, il y a une panne. Alors là, on est obligé d'avoir recours à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là qu'on pourrait dire la différence entre péché véniel et péché mortel, qu'on doit avoir l'intervention de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ça sera pas l'informaticien, mais ça sera le prêtre qui vient pour tout réparer. Bien sûr, c'est le Christ qui répare tout. Alors, dans tout péché, il y a ces péchés capitaux qui sont impliqués. Donc, je dirais, pas tous les péchés capitaux sont mortels. Mais dans tous les péchés, il y a les péchés capitaux.
Fallait pas me quitter. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu.
Jésus a dit, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Est-ce que c'est pas étonnant qu'il y ait un péché impardonnable alors qu'on dit que Dieu pardonne tout?
Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, hein, on pourrait se dire Dieu est infiniment miséricordieux. C'est vrai que moi j'ai une grande dévotion à la divine miséricorde. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce portrait qui a été peint par sœur Faustine de la Pologne dans les années 1930. Elle était béatifiée et canonisée par Jean-Paul II. D'ailleurs, Jean-Paul II qui est mort le samedi soir 2 avril, le soir à 21h37. Donc, selon la liturgie catholique, on était déjà à la fête de la Divine Miséricorde, qui est le deuxième dimanche après Pâques, où Jésus souffle sur ses apôtres avec le vent de l'Esprit-Saint, puis leur dit « À ceux à qui vous aurez remis les péchés, ils seront pardonnés. À ceux qui ne seront pas pardonnés, ils seront maintenus. » Ce deuxième dimanche, Jean-Paul II a souhaité, conformément à ses apparitions que sœur Faustine a eues, en voyant justement le Christ avec cette image de la Divine Miséricorde, avec un Jésus qui a un peu les yeux mouillés, on voit que le péché, ça le touche. Il a la main sur son cœur, deux rayons qui jaillissent, un rayon rouge et un rayon blanc. Et puis de l'autre main, il bénit. Hein, c'est une belle image, ça vaut la peine. Vous pouvez aller sur Google, vous mettez Divine Miséricorde et puis pouf, vous trouvez la belle image. Alors c'est vrai que Jésus a vraiment voulu dire à l'humanité que sa miséricorde n'a pas de limite. Mais c'est un peu comme dans la vie. Si vous dites, écoutez, j'aimerais vous demander pardon et l'autre refuse, eh bien, on peut rien faire, on est bloqué. Et par rapport à Dieu, qui est créateur et source de notre liberté, qui veut donner son pardon, mais la personne se ferme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors Dieu, il nous respecte aussi. Alors le péché contre l'Esprit Saint, mais vraiment, il faut le vouloir. Hein. Il peut pas être remis dans ce monde ni dans l'autre. Autrement dit, si ici-bas, par exemple, quelqu'un fait un péché grave et il dit « je veux surtout pas demander pardon », alors là, bien sûr, tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, la personne peut se convertir. Mais si une personne refuse le pardon, et dans ce cas-là, refuse même au moment de sa mort d'être pardonnée jusqu'à la rencontre ultime avec Jésus qui est miséricorde, l'homme a cette capacité de refuser. Alors, un péché contre l'Esprit Saint, c'est le péché effectivement le plus grave, parce que c'est un refus de dire « Ce péché, Seigneur, je le donne et je veux que tu le purifies. » Donc, on ne lui donne pas. On se replie sur soi-même.
Quel est le rapport entre le péché et le mal ?
Si on revient dans la Genèse, dans la création, il n'y a pas le mal. Donc il n'y a pas la mort, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la maladie. Ça, c'est déjà aussi les conséquences. Et l'homme ne faisait pas le mal. Il était fait pour la vie en plénitude. Et dès qu'il y a le serpent qui vient, autrement dit le diable, qui était l'animal le plus rusé que Dieu avait créé, le péché d'abord trouve son origine chez les anges. Et puis Satan, donc Lucifer, qui était l'ange de la lumière, par jalousie, il est allé, quand il a dit, mais quoi ces petits Adam et Ève, là, qu'est-ce que c'est que ça, ils vont devenir comme le fils de Dieu, c'est pas possible. Alors il est venu, puis il a commencé à mentir. Donc, le premier péché, c'est le mensonge, moi je dirais. Le mensonge où il trafique la parole de Dieu. Il la traficote, il dit, comment ? Ah, comme ça, Dieu vous a dit, vous pouvez manger d'aucun fruit de l'arbre dans le jardin, alors que Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf un. Le mal trouve son origine dans le péché. Le mal, c'est une privation d'un bien. Par exemple, en philosophie, on dit, c'est vrai que c'est le mal en tant que privation. Le mal, il n'a pas une substance, si on veut. Par exemple, un chat à quatre pattes, eh bien, c'est un bien, hein, parce qu'il est effectivement à quatre pattes. S'il est à trois pattes, eh bien, il y a un mal, parce qu'il manque une patte. Donc, la privation, c'est le mal. Et on avait ça aussi dans des évangiles. Par rapport à un surmoué de naissance, on dit, les apôtres disent à Jésus, mais qui a péché? C'est lui ou ses parents? Et puis, il dit, ni lui, ni ses parents. Donc là, on est en présence du mal, qui a sa source et son origine dans le péché, mais le péché peut-être pas au niveau de la personne. Il faut vraiment exclure un Dieu qui punit. Quand il y a quelqu'un qui a mal, ou bien quelqu'un qui est handicapé, ou quelqu'un qui a une maladie, c'est pas forcément qu'ils ont péché eux-mêmes en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur ?» Mais vous avez peut-être rien fait. Et là, c'est le mal qui vous touche. Alors, c'est vrai qu'on peut faire une distinction entre le mal et le péché. Le péché est toujours personnel. Et le mal, malheureusement, est entré dans le monde par le péché.
À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été.
Le bienheureux Charles Ier de Habsbourg recommandait à ses enfants de pratiquer quotidiennement un examen de conscience. En quoi est-ce que consiste cet exercice ?
Magnifique, le bienheureux Charles de Habsbourg. C'est vrai que c'est un laïc en plus. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on a tous une conscience. Moi, j'aime bien parler de la conscience en parlant de Pinocchio. C'est vrai que ça paraît peut-être un peu drôle comme ça, mais si vous prenez Walt Disney, au début, vous avez la fée, vous avez Geppetto, et puis il y a Jiminy Cricket, le petit Cricket. Il se présente à Pinocchio qui lui dit « Tiens, mais qui es-tu ? Ah, moi je suis ta conscience. » Ah, la conscience, qu'est-ce que c'est ? La conscience, c'est cette petite voix que chacun entend à l'intérieur de nous et que si tout le monde suivait, le monde irait mieux. Jiminy Cricket lui dit à Pinocchio « Tu peux compter sur moi. » Puis après, on voit Jiminy Cricket, il essaye toujours un petit peu de lui dire « Écoute, ça serait mieux que tu fasses ça, que tu travailles à l'école, que tu n'ailles pas forcément faire le cirque et tout ça. » Puis Pinocchio, qui, chaque fois qui se trompe un peu, mais il apprend un petit peu son métier d'homme. Donc la conscience, c'est cette petite voix que tout le monde a à l'intérieur de soi. Et les anciens, les pères de l'Église, parlaient d'un Dieu aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est Dieu qui nous murmure de faire le bien. Alors l'examen de conscience, eh bien, c'est de justement essayer de faire entendre à l'intérieur de nous-mêmes la voix de la conscience, parce qu'elle peut être recouverte, la voix de la conscience. La conscience aussi, outre être un ami comme Jiminy Cricket, c'est aussi un œil qui nous permet de voir. Donc c'est pas la conscience qui définit le bien et le mal. Alors un œil, ça peut être aussi un tout petit peu endommagé. Par exemple, on peut, si on ferme la paupière, on verra plus la lumière. Alors le but de l'examen de conscience, c'est d'ouvrir la paupière de la conscience pour pouvoir voir la lumière et de pouvoir voir les nuances, justement, entre ce qui est obscur et celui qui fait la vérité vient à la lumière. Donc c'est de demander à l'Esprit Saint qu'il illumine notre œil intérieur pour pouvoir voir tout le bien qu'on fait. Parce que des fois, quand il y a les enfants qui viennent se confesser, je dis, mais tu vois, t'as deux colonnes dans ta vie. Il y a la colonne du bien et la colonne du mal. Alors la colonne du bien, tu as quel âge ? 8 ans. J'ai dit, tu te rends compte tout le bien que t'as fait en 8 ans ? C'est trop long. Si tu me dis tout le bien que t'as fait, on en a pour des heures et des heures. Par contre, si tu dis la petite colonne qui est beaucoup plus petite, eh bien là, ça sera beaucoup plus court. Puis ça, le Seigneur, il va tout faire disparaître. Donc, c'est vrai que le bienheureux Charles de Habsbourg, je pense qu'il a très bien fait d'ailleurs. S'il est devenu bienheureux, c'est bien justement qu'il ait réussi à purifier entièrement sa conscience. Il y a la pratique de faire l'examen de conscience tous les soirs, et puis de dire, ben, Seigneur, merci pour tout le bien que j'ai fait.